Donc, je suis très honorée de faire ce premier atelier. Donc, moi, je m'appelle Léa Charlet, je suis la coordinatrice d'écologie. Mais je suis également, j'ai un peu vécu dans le monde européen avant. J'ai notamment fait des études d'institutions européennes et j'ai travaillé un peu dans cette petite bulle-là. Et je suis aussi candidate pour les élections européennes, comme plein de personnes qui sont dans cette salle. Je suis très heureuse de voir mes colistiers, donc avec Saskia Bricmont, qui est ici, qui vous parlera juste après, qui est députée européenne. Et on a aussi Célina et Laura qui sont là dans la salle et à qui vous pouvez discuter après, des jeunes candidates. Donc, c'est très chouette d'être là aussi. L'idée de cet atelier, encore une fois, donc là, je vais plutôt vous présenter de manière assez courte, assez, comment dire, pas superficielle, mais de vous expliquer un peu comment fonctionnent les bases de l'Union européenne et pourquoi, du coup, c'est important, par exemple, d'aller voter au Parlement européen pour que vous puissiez être des multiplieurs, des multiplicateurs, comme on dirait, des multiplicatrices, qui puissent aller en parler et convaincre aussi les gens de réaliser que c'est hyper important de parler, en fait, de l'Union européenne. Donc, comment on est arrivé là? L'Union européenne, en fait, c'est un très beau nom, mais au départ, on parlait surtout de communauté. En fait, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit que c'était plus possible de faire autrement et qu'en fait, la seule manière de faire que les gens ne se tapent plus les uns les autres et en fait soient en paix, c'était vraiment de mixer les économies. Donc en fait, vraiment au départ, l'Union européenne, donc c'est un projet, on parle souvent de projet économique, mais c'est surtout pour nous un projet de paix. Et donc, on a commencé par mettre ensemble le charbon et l'acier parce que c'était les choses les plus importantes pour les personnes de l'Union européenne. Et notamment pour l'Allemagne et la France qui étaient tout le temps en train de se castagner. Au départ, c'était vraiment une espèce de grande priorité qui était vraiment la communauté qu'on appelait la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est extrêmement original parce qu'on a mis en commun du charbon et de l'acier. On a rajouté en fait un peu plus tard d'autres types d'énergie en commun. On a rajouté une union atomique, on a rajouté en fait d'autres domaines économiques. Et puis, on s'est rendu compte un peu plus tard que si on voulait que l'économie elle continue de fonctionner, il y avait besoin de réduire les inégalités en fait entre les régions. Et donc, on a commencé à à financer les régions les plus pauvres de l'Union européenne dans le cadre de la politique régionale européenne. On a aussi commencé à donner une des grandes compétences de l'Union européenne, c'est la protection de l'environnement, qui est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, parce que ça ne peut pas se faire qu'au niveau d'un État, mais ça doit vraiment se faire au niveau plutôt d'un continent. Donc, dans les années en fait 90, on est vraiment arrivé à ce qu'on appelle la base de l'Union européenne. La base de l'Union européenne, c'est vraiment des pays là qui se sont vraiment mis ensemble pour choisir un futur et partir et sortir un peu de juste les questions économiques, mais d'intégrer de plus en plus en gros quelque chose de plus clair. Donc, en fait, c'était la base en fait pour une future monnaie économique, pour une politique étrangère de sécurité et une coopération un peu plus étroite sur les domaines de la justice et des affaires intérieures. On a aussi lancé en fait ce qu'on appelle le marché unique avec les quatre petites libertés, donc qui sont les libertés de circulation des personnes. Des personnes, ça veut dire que vous pouvez bouger d'un pays à l'autre sans avoir à en justifier, des biens, des services et des capitaux. Et donc voilà, ça c'est le magnifique marché unique. Et surtout, en fait, maintenant, je vais vous parler du Parlement européen. Donc, le Parlement européen, c'est quoi ? Parce que pourquoi on en parle spécifiquement ? Parce que c'est la seule institution pendant laquelle on peut voter. Il y a plein d'institutions qui sont extrêmement dont vous entendez parler régulièrement, mais le Parlement européen c'est la seule qui est élue au suffrage universel direct, qui est élue donc tous les 5 ans. Vous pouvez voter le 9 juin, qui est élue à la proportionnelle partout vraiment dans l'Union européenne. Et il y a 705 députés et 27 États membres. Le Parlement européen, donc là, ce qui est hyper intéressant pour le Parlement européen, c'est que il fonctionne, donc dans les 705 députés, il y a des représentations de tous les États, mais normalement, le Parlement européen, c'est pour représenter les citoyens et les citoyennes européennes. Donc en fait, c'est vraiment celui où vous pouvez avoir des gens comme Saskia, qui vous représentent, qui ne représentent pas seulement les intérêts des États, mais qui représentent les citoyens et les citoyennes de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'ils font au Parlement européen ? Donc, on va discuter après de ça, mais c'est un peu, donc c'est la co-création de la loi. C'est un rôle aussi de supervision. Donc, on peut, en fait, officiellement, le Parlement européen pourrait renverser la Commission, si tout le monde était d'accord. Il y a des possibilités de comité d'enquête, donc d'aller enquêter sur des gros soucis. Donc, je ne sais pas, on pourra en discuter avec Saskia, parce qu'elle a travaillé dans un comité d'enquête. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, elle pourra vous en parler. Faire des plaintes à la Cour de justice européenne. On peut voter le budget, parce que l'argent, c'est important. Il y a aussi des traités internationaux qui sont discutés au Parlement européen et votés, et des nominations, des votes de commissaires, de procédures, de différentes procédures, donc de Spitzenkandidat, normalement, c'est de choisir qui est la présidence de la Commission européenne. Voilà. Officiellement, ce n'est pas vraiment une possibilité, mais c'est ce que le Parlement essaie de pousser au maximum, c'est-à-dire que les têtes de liste des partis européens puissent être les présidents de la Commission européenne. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, parler du Parlement européen sans comprendre comment ça fonctionne, l'Union européenne, ça va être extrêmement complexe. Parce que c'est parti d'un écosystème. Et donc, vous entendez souvent parler de, quand on parle de l'UE et quand on parle de l'Europe, on parle en fait de différentes institutions. On parle notamment très régulièrement du Conseil. Originellement, on parle en fait du Conseil, on parle des ministres de l'Union européenne, d'accord ? Donc tous vos ministres, par exemple, on va avoir des ministres des Affaires sociales. C'est tout ça qui sera dans le Conseil de l'Union européenne. Donc c'est vraiment ce qu'on va appeler les intérêts nationaux. Donc ça, quand suivant pour qui vous votez dans vos élections nationales, c'est ces personnes-là qui vont être dans cette institution-là du Conseil de l'Union européenne. La Commission européenne, là, c'est vraiment ce qui est censé représenter les intérêts de l'Union européenne. Donc vraiment de choisir un peu la politique qui va être appliquée dans les 5 années suivantes. Et ici, nous avons le Parlement européen, qui est la seule institution qui est censée représenter les citoyens et les citoyennes. Au tout début, il y avait vraiment que ces trois-là qui étaient là et qui ont été décidés. Et puis, on s'est rendu compte que les chefs d'État et de gouvernement, ils avaient toujours besoin de décider des choses. Ce qui est normal, parce que les présidents, les premiers ministres et tout, ont une implication en fait dans les politiques européennes. Et on a du coup institutionnalisé ce qu'on appelle le Conseil européen, et où là, en fait, on a vraiment les 27 chefs d'État et de gouvernement. Donc là, ici, vous avez De Croo, ici, vous avez Macron, vous avez Orban et tout. Et en fait, c'est ce Conseil européen qui impulse les grandes orientations politiques de l'Union européenne. D'accord ? Donc c'est un peu, ça serait le programme, voilà. Vous avez un programme politique qui est instauré là. D'accord ? Ensuite, vous avez le pouvoir un peu exécutif, qui est la Commission européenne. Une fois qu'on a les grandes orientations, la Commission européenne va proposer des différentes législations. On va dire, ben voilà, nous, en fait, cette année, ou les 5 prochaines années, on veut que ces choses-là soient passées. Et donc, on vous propose, on travaille, on prépare des textes pour que ces textes soient appliqués au niveau européen. Donc, ils vont proposer pas mal de choses. Et c'est là, en fait, où le travail du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sont très importants, c'est qu'ils vont discuter, revoir tout le travail de la Commission européenne et faire des amendements, changer les textes, le discuter, pour que à la fin, vous ayez des lois qui puissent en sortir. Et donc, c'est là où, en fait, le Parlement européen a un rôle très important, c'est qu'il a un rôle de codécision, c'est-à-dire que les lois qui sont décidées au niveau européen doivent absolument être décidées à la fois par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Le Parlement européen peut élire la présidence de la Commission, peut voter des commissaires, peut les censurer. Et il y a un gros lien, en fait, entre les deux conseils, entre le Conseil européen et le Conseil de l'UE, parce que c'est quand même les chefs d'État, en général, qui vont nommer leurs propres ministres. Et donc, il y a un lien total, complet, entre ces deux institutions, quasiment tout le temps. Je vais juste vous faire un truc sur les mots de la loi, parce que je trouve que c'est important. On passe notre temps à parler de directives, de règlements, d'avis, de résolutions et tout. Et en fait, ces termes ne veulent pas exactement dire les mêmes choses. Les directives, c'est vraiment des grandes orientations, donc un texte qui est voté, et les pays ont le choix de comment ils l'intègrent dans leur législation nationale. On considère actuellement qu'il y a à peu près 80% de nos lois au niveau des pays qui sont des lois qui ont été votées, des directives qui ont été votées au niveau européen. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un sens très important à s'intéresser à ce qui se passe au niveau européen. Par exemple, dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il va y avoir un seul chargeur. Nous n'aurons plus un chargeur pour les iPhones, un chargeur pour nos trucs. En fait, les chargeurs universels, c'est une directive qui a été votée et qui va être en application. Et donc ça va être décidé différemment selon les différents pays européens. Les règlements, ça va s'appliquer tel quel. Vous avez tous entendu parler peut-être du RGPD. Vous devez signer des petits trucs à chaque fois que vous signez une newsletter, une mailing list, en fait, pour protéger vos données. C'est ça, en fait, l'objectif, hein. C'est qu'on puisse pas revendre vos données n'importe où. C'est que vos données, on puisse les utiliser qu'une seule fois. Voilà. C'est quelque chose, en fait, on se rend pas compte, mais vraiment, le RGPD, c'est un règlement assez magnifique qui permet que vous soyez pas inondé de tout le temps. Voilà. Et ben ça, typiquement, c'est un règlement qui a été voté, qui s'applique tel quel. Ensuite, on a des avis, des recommandations, des résolutions. Ça, c'est non contraignant. Donc, c'est des choses où, en fait, le Parlement peut s'en emparer, peut s'en inspirer et peut donner, en fait, son avis sur des sujets. Par exemple, en janvier, il y a eu une résolution sur le cessez-le-feu à Gaza. C'est pas contraignant, mais on peut, c'est le Parlement qui voulait s'en emparer. Et tout ça, c'est préparé en commission. Et donc ça, je pense qu'on va plutôt avoir Saskia qui nous en parlera un peu plus tard. Je vais pas aller en détail. L'Union européenne, en gros, il y a plein de, il y a des défauts. Il y a énormément de choses qui viennent de points de vue nationaux. On se retrouve avec des situations qui peuvent être extrêmement bloquantes. Notamment au niveau du Conseil européen où là, il y a des, ce qu'on appelle la règle de l'unanimité. Ça veut dire que tout le monde doit être d'accord pour tout. C'est-à-dire qu'un pays peut bloquer littéralement une avancée que tout le monde a envie d'avoir. Et ça, c'est un vrai souci, parce que on peut avoir le Parlement européen qui est totalement d'accord, donc du coup, tous les gens qui représentent les citoyens, la Commission européenne qui est d'accord, et parce qu'il y a un État qui ne veut pas être bloqué. Et notamment, on a souvent eu ces problèmes avec la Hongrie récemment, mais la France aussi peut bloquer pas mal de petites choses. Notamment, je ne sais pas si vous avez suivi la directive sur les violences basées sur le genre, et notamment sur la définition du viol basée sur le consentement qui a été bloquée par la France. Bref, donc tout ça, ce que je voulais vous dire, et après on va passer à la rencontre avec Saskia, c'est que l'UE, en fait, elle a beaucoup de défauts, mais que c'est quand même un vecteur de paix, de progrès sur pas mal de choses. On a des règles qui favorisent encore un peu les majorités nationales. Là, on va encore beaucoup parler, même au niveau belge. On continue de parler comme si la campagne européenne était une campagne nationale. Là, vous allez voir, en juin, on va surtout parler des problématiques nationales. Cependant, c'est une campagne européenne. Donc, intéressez-vous aussi un petit peu à ce qui est dit. Voilà, parce que des fois, ce qui est dit au niveau national n'est pas vraiment fait au niveau européen. Donc, c'est aussi hyper important de vous renseigner pour ce niveau-là spécifiquement. Et enfin, voilà, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que l'UE peut amener, comment dire, énormément de belles choses au niveau mondial et peut voilà imposer beaucoup à l'extérieur. Je reprends l'exemple encore une fois du chargeur, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. C'est une norme qui a été décidée au niveau européen et qui est en train de bouleverser un peu les marchés mondiaux en fait, parce que on est en train de l'imposer. Bah en fait, ça a été imposé à Apple, à Samsung et tout. Donc en fait, tout ça va être imposé au niveau mondial de petit à petit quoi. Et comme quand on veut avoir des normes environnementales, et ben en fait, si on a des traités agricoles ou si on a des traités agricoles dans lesquels on met des normes minimum, et ben en fait, on peut changer et mettre un peu plus d'impact en fait et un peu plus d'effet sur d'autres pays. Voilà. Eh bien, je vais laisser Saskia parler maintenant, et c'est Olivier aussi qui va modérer cette conversation. Ben, merci beaucoup et passez une belle rencontre.
Eh ben bonjour à toutes et à tous. Je suis super content d'être là. Donc Léa l'a fait vite fait, mais je me présente. Je m'appelle Olivier. Je suis le trésorier d'écologie. Et aujourd'hui, j'anime avec vous un atelier sur, enfin du coup, une discussion avec l'eurodéputée Saskia Bricmont, qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui sur comprendre l'Europe. Donc on va revenir ensemble sur ce que c'est que le rôle d'une eurodéputée. On va aussi revenir ensemble sur les interactions qu'il peut y avoir entre les politiques et les militants. On va pouvoir poser la question du lobbyisme au sein du Parlement européen, ce qui me semble être une question qui est quand même assez importante, surtout pour des activistes ou même des sympathisants comme nous. Et on va aussi faire un peu, pas l'état des lieux, mais en tout cas revenir sur l'action des Verts au Parlement européen et les projets pour la prochaine mandature. Donc, comme je disais, on a l'honneur d'accueillir Saskia Bricmont aujourd'hui, qui est députée européenne depuis 2019 dans le groupe des Verts, et qui est aussi tête de liste du parti écolo pour les élections européennes qui vont arriver le 9 juin prochain. Tu es aussi membre de la commission commerce international, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe. Si tu veux, on peut commencer avec ma première question. Je voulais avant tout te demander quel était le rôle d'une députée dans un groupe d'opposition au Parlement européen.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là et l'honneur est vraiment pour moi parce que, enfin voilà, entre-temps j'ai vieilli, j'ai plus l'âge d'écologie, mais je suis quand même passée aussi par pas mal d'activités écologie au début de ma militance à écolo, et donc c'est toujours un plaisir de revenir aussi et de pouvoir discuter avec vous toutes et tous. Donc merci pour l'invitation. La présentation est très très juste, mais une petite nuance, c'est qu'on n'est pas un groupe d'opposition. parce que c'est toute la différence entre le Parlement européen et les parlements nationaux ou régionaux. Il n'y a pas en tant que tel de majorité d'opposition. Il y a 7 groupes politiques que Léa a merveilleusement bien présentés. 7 groupes politiques qui vont à chaque fois négocier ensemble, avec un représentant par groupe, sur chaque dossier, ce qui deviendra la position du Parlement européen. Et donc il n'y a pas en tant que tel de majorité-opposition. Alors on peut nuancer ça, parce que Léa a parlé des Spitzenkandidaten. Effectivement, l'idée en 2019 des députés sortants, c'était de dire on nomme chacun, chaque liste nomme sa tête de liste qui deviendra président ou présidente de la Commission européenne si le groupe devient le premier groupe. Donc en l'occurrence, c'est le PPE, Parti populaire européen, dans lequel siègent les engagés, qui est le plus grand groupe. Ils ont eu la tête de la présidence de la Commission européenne, sauf que von der Leyen a été sorti du chapeau par Merkel, Macron, validé par le Conseil, et c'était pas Manfred Weber qui était pourtant la tête de liste qui est devenu le président de la Commission, ce qui a créé beaucoup de problèmes entre eux, hein. On peut y revenir après, tout ce qui explique aussi les problèmes qu'on a entendus sur la loi de restauration de la nature et les batailles internes au PPE pour faire progresser le pacte vert qui est le bébé de von der Leyen et qui est l'ennemi de Manfred Weber. Donc c'est toutes des questions politiques qui sont pas tellement apparues sur la scène publique quand on a parlé de ces dossiers, mais qui jouent. Et c'est vrai que là, la logique des 3 grands groupes est ressortie, est revenue. Parce que dès que on est sorti de cette logique parlementaire de Spitzenkandidat et que c'est le Conseil qui a repris la main, les socialistes, les libéraux, les conservateurs sont re-rentrés dans une logique de « bon, ben, si c'est comme ça, on laisse tomber tout ce qui est programmatique et on se répartit entre nous les postes ». Et là, les Verts ont été exclus et les autres aussi. Et donc là, voilà, la logique de groupe dominant est ressortie très fort. Et donc le rôle d'une parlementaire, c'est d'abord de choisir ses commissions parlementaires, et c'est ce qui va se passer après les élections. On va rebattre les cartes et dire, ben voilà, moi, j'aimerais bien siéger, et c'est ce que j'ai fait en 2019 quand je suis arrivée, dans la commission du commerce international, dans la commission Libé, justice, affaires intérieures, migration, droits fondamentaux, parce que commerce international, c'est mon background militant, Oxfam, altermondialisme, commerce équitable, l'impact qu'on peut avoir ici dans nos modes de consommation, de production sur le reste du monde, et enfin, voilà, la perspective de travailler dans une vision de l'économie au service du bien-être des gens plutôt que au service de l'économie et du business. Et donc dans ce cadre-là, c'est comme ça que mon choix s'est porté sur le commerce international. Et tout ça se tient avec le maintien, la préservation et le faire progresser les droits fondamentaux. Et donc là, c'est le choix de la commission de la justice, puisque petit à petit, on peut y revenir. La législation européenne nationale évolue vers de plus en plus de surveillance, de sécurité. Il y a un gros backlash dont Léa a parlé aussi en termes de droits fondamentaux, droits LGBT, droits des femmes. Les questions d'avortement qui sont remises en cause dans de plus en plus de pays, les droits LGBT qui, au lieu de progresser, reculent. L'avènement de l'extrême droite n'aide évidemment pas, mais donc on a des régimes illibéraux. Et c'est aussi le rôle de l'Union européenne de faire en sorte de maintenir nos démocraties, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, les droits des journalistes, et on y reviendra aussi avec d'autres sujets. Et ça, c'est vraiment le driver de cette haute commission que j'ai choisie. Dans les commissions, on est X députés par groupe, on est 8 en Libé, effectifs et suppléants. On a chacun des dossiers à nous, qu'on défend de A à Z, qu'on négocie de A à Z avec les 6 autres groupes politiques. On vote en commission la position de la commission Libé ou environnement, ou voilà, il y a plus de 20 commissions parlementaires. Et puis, la position validée en commission parlementaire. Si c'est pas clair, vous m'interrompez, hein. Si ça devient trop, vous me dites
oui,
stop.
C'est beaucoup d'informations, stop. Donc
voilà, donc,
pas. Hein.
Travail en commission parlementaire avec les députés experts et toutes nos équipes, et il y en a ici présentes. Jessica est assistante parlementaire. Elle pourra aussi vous renseigner si vous avez des questions sur le job d'assistant. Il y a les conseillers des groupes. Donc, on n'est pas tout seul en tant que parlementaire aussi, parce qu'on n'a pas l'expertise de tous les dossiers, mais c'est nous qui sommes les responsables politiques des dossiers, de négocier avec nos homologues des autres groupes. Et une fois la commission parlementaire a fini son travail, ça passe en plénière, et c'est là que les plénières ont lieu à Strasbourg, majoritairement. le siège officiel du Parlement européen, c'est Strasbourg, c'est ses voyages permanents, débiles, mais permanents. Pourquoi ? Parce que la France la met son veto et ne veut pas changer ce siège du Parlement européen qui se trouve dans les traités à Strasbourg. Donc, chaque mois, on va une semaine à Strasbourg pour voter l'ensemble des textes qui ont été négociés pendant les semaines, les mois, parfois les années qui ont précédé. Donc ça, c'est un peu le processus parlementaire. Donc le rythme, c'est vraiment négocier entre députés en charge des dossiers, voter en commission parlementaire nos textes et ceux des autres, avoir des auditions aussi en commission, parce que il faut qu'on alimente le travail parlementaire avec des auditions des experts, etc. C'est la bataille aussi pour obtenir des bons experts ou des bons lobbies, parce que fatalement, le PPE, la droite, invite d'autres représentants que ceux que nous, on veut inviter. Donc, c'est chaque fois aussi une négociation de savoir qui on va inviter officiellement comme intervenant. Et puis, ces fameuses séances plénières qui scellent la position du Parlement. Et si ce sont des textes dits législatifs, donc si c'est l'équivalent de loi, une fois que le Parlement a défini sa position, il rentre en négociation avec le Conseil de l'Union européenne, donc les 27 États membres, en ce qu'on appelle le trilogue avec la Commission européenne, le Parlement, le Conseil. Donc on a beaucoup de trilogues pour le moment, pour terminer les dossiers avant les élections. Et le Conseil bloque beaucoup, donc les États membres bloquent beaucoup de choses. Léa a parlé de la directive sur les violences de genre. Ici, pour le moment, on est en pleine attente que le Conseil débloque le devoir de vigilance des entreprises, qui est une victoire des Verts, qu'on se le dise. On a vraiment bataillé pour obtenir cette directive sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et là, ce sont les États membres qui bloquent. Idem, le règlement sur le travail forcé. On l'a obtenu en 2 ans, ce qui est assez inédit dans en général, les processus très longs du Parlement et des institutions européennes. En 2 ans, on a obtenu un règlement pour exclure le travail forcé du marché européen. Et à nouveau, c'est le Conseil qui fait chier. Qui fait réellement chier. Il y a une demande des consommateurs de pouvoir consommer, acheter des vêtements, acheter des produits dont on sait qu'ils sont exclus de travail forcé ou d'esclavage moderne ou étatique. On pense particulièrement aux Ouïghours. Je pense que c'est devenu le cas le plus connu. La Chine qui réduit la communauté minoritaire ouïghour en véritable esclavage. On sait que le coton utilisé pour nos vêtements est récolté par cette communauté. Donc ça cible évidemment la Chine, mais des millions d'autres travailleurs forcés dans le monde. Et donc oui, le Conseil fait chier de bloquer ça, parce qu'il y a une vraie demande. Donc il va falloir qu'on se remobilise pour mettre un coup de pression sur les États membres pour qu'ils avancent sur les règlements avant la fin du mandat.
D'accord. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse. T'as parlé du coup de ton travail dans les commissions entre guillemets classiques, ou en tout cas les commissions qui sont permanentes au Parlement européen. Je voulais qu'on revienne ensemble sur ton travail, plus précisément sur une commission en particulier, qui est la commission d'enquête Pegasus, donc qui est, j'ai l'impression, une commission particulière par rapport aux autres commissions. Donc je voulais un peu que tu nous parles de ce travail, et surtout pourquoi cette commission elle a été lancée et pourquoi ça nous impacte, nous, citoyens européens, du sujet que cette commission soulève.
Merci. Ouais, commission d'enquête, c'est une commission spéciale qui n'était pas là de facto en début de mandat, qui n'est pas une commission permanente, mais qui est vraiment liée à un dossier, à un sujet d'actualité précis. Il y en a eu quelques-unes des commissions d'enquête sous cette législature, notamment sur une commission spéciale sur l'ingérence étrangère aussi, et d'autres. Et donc la commission d'enquête Pegasus, c'est le nom d'un logiciel espion. Très intrusif parce qu'il peut infecter vos téléphones sans le savoir et même s'ils sont éteints. Donc globalement, c'est un vrai espion qui est mis dans vos appareils sans qu'on s'en rende compte, qui est très difficile à détecter aussi parce que, par exemple, moi, au moment de déclenchement de la commission d'enquête, j'avais un Fairphone. Et quand on éteint le Fairphone, en fait, ça efface toute trace de potentielle intrusion. Donc, j'ai pu être espionnée sans jamais le savoir et pouvoir le détecter parce que le soir, j'éteins mon GSM. Ben, c'est foutu. On ne sait plus détecter le lendemain si éventuellement il y a eu surveillance ou pas. Donc, il n'y a que les iPhones qui permettent vraiment de retracer et d'aller retrouver la source de l'espionnage. Et c'est comme ça que des journalistes, pas du tout des autorités, pas du tout des parlementaires, ce sont vraiment des journalistes qui, Forbidden Stories, Amnesty et Citizen Lab se sont mis ensemble pour mener des investigations sur ces faits d'espionnage illégal. Et donc, il s'avère, au terme de la commission d'enquête, donc pourquoi on a mis cette commission d'enquête en place au départ ? Ben parce que rien n'autorise, rien n'encadre l'utilisation de ce type de logiciel dans la législation européenne et même nationale. Vous allez dire, oui, mais l'espionnage, c'est historique, c'est de notoriété publique, tout le monde espionne tout le monde. Les conversations téléphoniques ont toujours été surveillées. Sauf qu'ici, quand on regarde l'impact d'un tel logiciel espion, eh bien, c'est en violation de nombreuses lois européennes, et notamment le fameux RGPD, donc la protection des données, puisqu'en fait, les personnes ou entreprises à l'origine de l'espionnage peuvent siphonner toutes vos données, même privées, vos photos, enfin voilà, donc c'est tout. Et que derrière, il n'y a pas nécessairement de mandat judiciaire, donc c'est pas dans le cadre d'une enquête, c'est pas parce que vous êtes suspecté de criminalité ou d'être trafiquant de drogue que on donne l'autorisation aux services secrets ou aux autorités ad hoc d'espionner. Et donc, on a appris au départ l'utilisation de ce type de logiciel en Pologne, notamment, en Hongrie, en Pologne contre une procureure, par exemple, contre des avocats, donc en violation du secret professionnel, puisqu'il y a la protection des échanges avec le client qui est respect de droit qui a été violé en espionnant des avocats.
D'indépendance de la justice.
D'indépendance et de séparation des pouvoirs, des journalistes qui ont aussi été espionnés. Et donc, en fait, au fil du temps, d'autres révélations ont été faites. Pologne, Hongrie, Grèce, mais aussi Espagne ont utilisé ce type de logiciel. En Espagne contre les Catalans, en Grèce contre des journalistes. Et l'espionnage a donné lieu à des SLAP, donc des procédures bâillons à l'égard des journalistes par le gouvernement. Et donc, vraiment, un outil finalement utilisé au service de la répression de l'État vis-à-vis de certaines catégories de population, de journalistes, donc la liberté de la presse qui est attaquée. Et ça touche au fondement de l'État de droit, au fondement de nos démocraties. Et c'est comme ça que le Parlement a décidé de lancer une commission d'enquête. Alors, je suis assez modeste. Mais là, pour le coup, je revendique la maternité du lancement de la commission d'enquête, sauf que notre collègue, qui est une très bonne collègue libérale, Sophie Hinfeld, a crié plus fort et a obtenu tout de suite une attention médiatique que je n'ai pas obtenue à l'époque. Et donc, elle a été reconnue comme étant à l'origine de la demande de commission d'enquête, mais moi, j'avais déjà déposé la demande à nos coordinateurs internes au Parlement, pour débattre de la possibilité de lancer cette commission d'enquête. J'ai été trop discrète dans ma demande. Bref, on a lancé cette commission d'enquête. Je termine vite parce que je sais que je suis longue dans mes réponses.
Pas de soucis. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, y a pas de soucis.
C'est toujours difficile de me limiter dans mes réponses. Mais donc, on a lancé cette commission d'enquête pour justement essayer de faire la lumière, puisque la Commission européenne n'a pas réagi. Donc, première révélation d'espionnage dans des pays qui sont déjà dans le collimateur de la Commission européenne, puisque la Pologne, la Hongrie, ça fait des années que le Parlement européen demande à la Commission européenne d'ouvrir des procédures, notamment liées à l'article 7, face aux violations de la séparation des pouvoirs, de l'état de droit, l'oppression des journalistes, des minorités, l'évolution des régimes illibéraux hongrois et polonais aussi à ce moment-là. C'est d'autres collègues qui suivent ces questions d'état de droit, notamment la députée de Jessica Gwendoline Del Bosco-Field, qui est française, que vous, pour les Français en tout cas dans la salle, connaissez certainement, et qui aurait du coup, enfin, le fait que ces gouvernements utilisent des logiciels espions contre toute, en toute illégalité à l'égard d'avocats, de journalistes, d'opposants politiques, de procureurs. Aurait dû rentrer dans cette critique du recul de l'état de droit. La Commission européenne, à mon sens, aurait dû réagir très vite et ouvrir au moins des enquêtes. Sauf que Reinders, commissaire en charge, que vous connaissez aussi, a d'emblée dit c'est du ressort de la sécurité nationale, c'est du ressort de la compétence, enfin c'est de la compétence des États membres, et donc la Commission européenne n'y touche pas. C'est comme ça que nous on a dit ok, commission d'enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, comprendre qui a fait quoi, d'où viennent ces logiciels espions. Et il s'avère que Pegasus, c'est un logiciel créé par une société israélienne, NSO, et qui peut être considéré comme un bien à double usage. Donc une arme, si elle est utilisée, revendue dans des contextes qui pourraient en fait être utilisés comme une arme, et c'est ce qui s'est passé. Et donc là, c'est une autre législation européenne qui est violée, puisqu'on a une législation sur les biens à double usage qui interdisent notamment l'exportation de ces logiciels qui ont été exportés au Soudan au moment du coup d'État par la Grèce. Enfin, donc on a, c'est une multiplicité de scandales en fait, cette question des logiciels espions qui touche au cœur de nos démocraties européennes, mais aussi à ce qu'on fait et ce qu'on tolère ou pas de la part de régimes tiers. Et il s'avère que le Maroc a espionné Macron et d'autres, des opposants politiques présents en Europe, en France, en Belgique, notamment un militant de la cause sahraoui, donc du Sahara occidental, hein, donc ce territoire qui est considéré comme territoire marocain par le Maroc, mais que nous, on reconnaît au titre du droit international et des conventions, des résolutions de l'ONU, comme étant un territoire autonome. Il s'avère que d'autres pays, potentiellement aussi Israël, ont espionné l'Europe, et très récemment des nouveaux scandales, le Vietnam qui aurait utilisé le même logiciel exporté par la France vers le Vietnam, donc vous voyez un peu les circuits de dingue, et a utilisé le logiciel pour espionner des députés dans le cadre d'un dossier qui est contesté par le Vietnam avec l'Union européenne. Donc ça continue, alors qu'on a un long rapport de recommandations très concrètes de mesures à prendre en urgence, un moratoire sur la vente, l'utilisation, l'exportation de ce type de logiciel tant que des balises ne sont pas en place dans tous les États membres. Et la première balise, c'est notamment un mandat judiciaire avec un dossier complet d'informations au juge, au procureur qui doit prendre la décision. Parce qu'il s'avère qu'en Pologne, il y avait des mandats, sauf que le juge a donné autorisation de surveiller une procureure sans savoir qui allait être surveillé. Donc il a juste donné l'autorisation au service de renseignement de surveiller, mais il ne savait pas de qui il s'agissait et pourquoi il donnait cette autorisation. Donc enfin, voilà, on nage en plein délire. Objectivement, on se dit, mince, comment est-ce possible d'en arriver là dans nos démocraties, dans nos états de droit? Donc ça signifie qu'on accepte, nous, Européens, d'être surveillés par des états tiers, qu'on accepte que les gouvernements utilisent ça de manière totalement illégale. Et ça porte vraiment atteinte au fondement de nos démocraties. Les États-Unis ont réagi tout de suite, ils ont blacklisté NSO, ils créent leur propre logiciel espion. Est-ce mieux ? Ça, c'est autre chose. Mais néanmoins, ils se protègent. Nous, les Européens, c'est open bar, hein, c'est open house. Venez nous surveiller, on n'a pas de balises en place, c'est cool. Et à nouveau, ce deux poids deux mesures vis-à-vis de pays et d'entreprises, notamment israéliennes, est vraiment problématique, et donc la bataille va continuer puisque les recommandations sont loin d'être mises en œuvre. D'accord. Que les surveillances continuent et que ni les États membres ni la Commission européenne ne prennent les dispositions nécessaires. Donc prochain mandat, on reviendra avec nos recommandations et on retapera sur le coup pour avancer.
Okay. Hyper intéressant encore. Par rapport à Pegasus, moi quand j'ai préparé l'animation, j'ai vu qu'en printemps dernier, beaucoup de journaux ont exposé le fait que le groupe NSO avait fait énormément de lobbying au sein du gouvernement, enfin auprès du gouvernement américain, pour du coup essayer d'enlever ce blacklistage qui était survenu en 2021. Et bon, petite transition pour que on puisse aborder la question du lobbyisme au sein du Parlement européen. On a beaucoup de groupes, alors de personnes, mais aussi de groupes d'intérêts privés, d'entreprises et d'activistes qui ont accès au Parlement européen. Et par rapport à cette question-là, moi, je voulais qu'on revienne sur un moment qui a été un peu charnière de cette dernière mandature, qui est la loi de la restauration de la nature, qui a été votée. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une loi qui est exceptionnelle, qui est incroyable pour la protection de l'environnement, pour le combat écologiste que nous, on mène, parce que c'est la première mesure qui, au niveau d'un continent, mais des objectifs contraignants pour la restauration des écosystèmes dégradés. Et moi, je voulais savoir par rapport à ce moment-là, moi j'avais vu beaucoup sur Instagram des influenceurs activistes qui documentaient leur lobbyisme, ou en tout cas leur plaidoyer au sein du Parlement européen, et moi je voulais savoir comment est-ce que les politiques et les activistes travaillaient dans la promotion d'un texte comme le Nature Restoration Law, ou dans sa défense par rapport à peut-être d'autres groupes d'influence ou d'autres personnes qui travaillent pour les lobbyistes.
Oui, merci. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des lobbies au niveau européen, et donc je disais tout à l'heure, il y a des bons et des mauvais lobbies, et chaque groupe politique finalement élu se fait influencer par les secteurs qu'il pense représenter. Moi, très clairement, les experts avec lesquels je travaille, les ONG avec lesquels on travaille, ben c'est ceux avec lesquels l'écologie est en contact aussi. Défense des droits de l'homme, on va retrouver Amnesty et d'autres organisations. Défense de la nature, on va retrouver Greenpeace, Natagora en Belgique, enfin et d'autres ONG. Mais moi, en tant que députée, j'écoute aussi tout le temps l'autre bord. Je veux toujours comprendre, entendre les arguments qui sont défendus par, imaginons, enfin l'industrie. L'industrie n'est pas toujours une ennemie. C'est plutôt de voir comment, avec eux, on peut faire évoluer les choses pour que, en fait, les logiques écologiques s'applique aussi au secteur industriel. C'est tout l'objectif du pacte vert européen. Donc le pacte vert européen, c'est le projet de la Commission européenne présenté en 2019 qui inclut différentes stratégies autour de l'industrie pour faire en sorte qu'il y ait une forme de réindustrialisation européenne verte, donc respectueuse des normes environnementales, avec en background toujours la compétitivité et la croissance. Hein, c'est green growth. Donc, voilà, ça donne déjà un peu le là de ce pacte vert qui n'est pas notre cam, mais c'est quand même une avancée par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Stratégie pour l'économie circulaire, donc de faire rentrer l'économie dans la circularité, ce que Barbara Tracht fait à Bruxelles dans le cadre de la transition économique. L'idée du donut et du fait que les politiques sociales, environnementales, écologiques, en fait, forment un tout et que l'économie doit être au service du développement et du bien-être des gens et fonctionner en circularité pour réduire un maximum l'utilisation des ressources et donc l'exploitation aussi, j'en reviens au commerce équitable, hein, les ressources dans les pays tiers, puisqu'on vient de conclure encore un accord avec le Chili pour aller chercher le lithium pour notre transition verte. Hein, le lithium, on en a besoin pour nos appareils électroniques, pour notre transition, mais au prix de l'exploitation des mines dans des conditions qui sont toujours pas respectueuses ni des travailleurs, ni des populations locales, ni de l'environnement, de l'eau, etc. Et donc, j'en reviens au pacte vert, l'économie circulaire, l'industrie, la stratégie de la ferme à la fourchette qui est censée redéfinir la politique alimentaire et donc agricole de l'Union européenne. Il y en a plusieurs qui ont mis la PAC, politique agricole commune. C'est ça, et c'est toute une vision qui doit nous permettre de mettre tous les secteurs politiques au diapason pour atteindre la société zéro carbone dont on a besoin en 2050 pour survivre sur notre planète, tout simplement. Et là, au début du mandat, les choses avancent dans la bonne direction. On a une loi climat, donc la même chose que la loi de restauration de la nature, mais pour le volet climatique, et c'est la première fois que plusieurs pays ensemble se dotent d'objectifs contraignants et non plus uniquement volontaires, puisque l'accord de Paris sur le climat, ça reste volontaire aujourd'hui. L'Europe a décidé, dans le cadre du pacte vert, d'en faire des objectifs obligatoires, contraignants, des plans d'action nationaux qui doivent être déposés par tous les États membres avec des objectifs à atteindre. Ça va jamais assez loin pour nous dans l'analyse, puisque les objectifs ne sont pas ceux qui sont définis par le GIEC et par les scientifiques, mais tout fait l'objet de négociations avec 6 autres groupes politiques, dont 4 groupes ne veulent pas entendre parler d'avancées vertes. On a réussi à obtenir des majorités politiques pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a réussi à bien avancer sur ces thématiques-là. Et puis la 4e année, le PPE, où siègent les engagés, hein, et qu'on se le dise et qu'on se le redise, parce qu'ils pèsent rien dans leur groupe politique, a décidé de faire de leur thème de campagne l'opposition au pacte vert européen. Et donc, ils ont totalement reswitché et adopté finalement une posture totalement climato-sceptique. Parce que renoncer au pacte vert européen, ça signifie qu'on nie la réalité de l'urgence climatique, qu'on nie la nécessité impérieuse d'évoluer vers cette société zéro carbone en 2050, et donc on remet en cause finalement le fait que tous les secteurs doivent contribuer à ces objectifs. Et c'est là que je reviens à l'opposition Weber-Von der Leyen. Donc Von der Leyen, qui a été désignée présidente de la Commission européenne, qui a, elle, présenté ce pacte vert européen suite à la vague verte aussi, les marches pour le climat en 2019, avant les élections. Et Weber, qui a décidé politiquement de faire de l'assassinat du pacte vert un enjeu d'abord interne au PPE, en opposition à Von der Leyen et aux victoires finalement qu'elle a engrangées tout au long de son mandat dans le cadre de ce pacte vert qui avançait. Donc il a d'abord tué ça pour des raisons totalement politiciennes internes au PPE et aux Allemands, puisqu'ils sont tous les deux Allemands. Et au congrès de l'an dernier, je pense en janvier ou février, le PPE a tenu un congrès, et là, ils ont clairement affirmé qu'on en avait assez fait sur le plan environnemental, écologique. Et c'est là que c'était le début de la fin de la loi de restauration de la nature, puisque un des dossiers qui venait sur la table après, dans la foulée de ce congrès du PPE, c'est la loi de restauration de la nature, et donc il est devenu extrêmement compliqué, parce que clivage idéologique sur une loi, d'avancer. Nous, notre référence a été de partir des objectifs internationaux définis par la COP biodiversité et sur base des travaux qui montrent que 90% de nos habitats sont dégradés en Europe. 90% de nos habitats sont dégradés en Europe. Et donc, il y a urgence en termes de restauration de la biodiversité, de les 4000 km de haies de Céline Tellier. Au début, on en riait, mais maintenant, on comprend, hein. Et je pense que la majorité des gens comprennent pourquoi c'est en fait crucial de replanter des arbres, des haies, de restaurer la biodiversité, de faire revenir les pollinisateurs et de faire en sorte, à la fois pour la biodiversité, mais aussi l'adaptation au changement climatique, de verduriser nos espaces. Et donc c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est exactement ce que le PPE a décidé de saboter, aussi sous le poids des lobbies. Et c'est là que l'exemple concret des lobbies intervient. C'est que les secteurs qui n'ont pas intérêt à changer à court terme, parce que leur business model, leur chiffre d'affaires, n'est pas basé sur une logique environnementale qui intègre les défis écologiques. Et donc ce qu'il faut faire, c'est changer le logiciel et le business model des entreprises, de l'industrie, pour verduriser, parce qu'elles savent bien qu'elles doivent y aller à terme. Elles savent bien qu'elles doivent s'adapter aussi et inclure cette dimension-là. Pourquoi Total investit dans les énergies renouvelables ? Parce que Total sait bien qu'il va falloir, qu'il fallait diversifier il y a déjà des années quand ils ont commencé à le faire et que petit à petit, ça va devenir la majorité des investissements et que les énergies fossiles ne seront plus encouragées, ne seront plus soutenues. Mais tant que le public, tant que le politique ne décide pas de mettre un terme aux subsides aux énergies fossiles, ben Total a tout intérêt à continuer ses activités comme il le fait. A tout intérêt à continuer à défendre son business model basé sur les énergies fossiles et leur exploitation. Et donc, c'est là que le poids des lobbies intervient sur le législateur, sur ceux qui ont plus tendance à entendre les sirènes de ces secteurs-là. Et Weber en fait partie, le PPE en fait partie, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de tuer la loi. Alors nous, on a tenu bon. On avait une rapportrice verte allemande, on a tenu bon pour avoir une loi. Parce qu'il vaut mieux une loi que pas. Il vaut mieux un cadre que rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a rien en la matière au niveau européen. Et c'est là qu'on a décidé de continuer, avec l'aide aussi des activistes, des ONG qui ont, à leur niveau, mis la pression dans l'autre sens pour faire en sorte de garder à bord. Bon, The Left, en général, est avec nous sur ces sujets-là. Les Verts, c'est bon. Les socialistes, il faut les convaincre, quoi. Il faut les convaincre. Ce n'est pas acquis que tous les socialistes vont voter cette loi de restauration de la nature. Ce n'est pas acquis que tous les socialistes vont voter la loi climat. Donc eux, il faut les convaincre. Et puis une partie des libéraux. Indispensable aussi si on veut une majorité au Parlement, parce que vous avez vu, c'est plus de 400 députés qui sont à droite, quoi. Et donc si on veut une majorité, il faut qu'on aille chercher du côté de la droite cette majorité. Et ça, c'est un vrai travail de conviction. On les compte. Et l'expérience fait qu'on sait petit à petit qui on peut aller chercher et convaincre de ne pas voter comme leur groupe. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine, à la fois de nous, députés, vers les collègues députés, mais aussi en disant aux ONG, allez contacter un tel, allez les lobbyer, allez les emmerder, parce que eux, on peut les convaincre s'ils sentent qu'ils ont une pression dénoncer auprès de leurs citoyens qu'ils risquent de voter contre la loi de restauration de la nature, et c'est comme ça qu'on a obtenu une majorité. Alors, l'UDGEN s'est abstenu. Je reviens, vous allez dire, oui, elle en veut à l'UDGEN, mais il a tellement des postures ici dans le cadre des élections, alors que pendant 5 ans, on ne l'a pas tellement vu actif sur ces matières-là. Il s'est abstenu sur la loi de restauration de la nature au nom des intérêts des agriculteurs. Alors oui, c'est clair qu'on va pouvoir continuer comme on fait maintenant, préserver la terre qui est la matière première des agriculteurs. Donc ils ont un double discours en disant il faut avancer sur le plan environnemental, mais il faut continuer l'agriculture intensive. Enfin, il y a à un moment donné une logique qui n'est pas là et qu'il faut qu'on puisse continuer à dénoncer aussi en disant non, on ne bâtira pas un environnement économique propice sur un désert de biodiversité, sur des terres épuisées et sur des terres sans biodiversité qui sont essentielles à nos cultures et à notre alimentation. Donc là, il faut qu'on continue la bataille. On a encore une majorité pour le pacte vert. Le constat, il est là. Les médias, tout le monde avait annoncé la mort de la loi de restauration de la nature en disant c'est mort, ça n'aura pas lieu. Si, elle est là, on l'a. Certes, beaucoup moins ambitieuse que celle qu'on aurait voulu et qui devait être adoptée,
beaucoup de compromis.
Mais on l'a. Donc on a encore une majorité. Et c'est là que moi je voudrais aussi dire attention aux prophéties autoréalisatrices. Quand on dit que l'extrême droite va tout envahir, oui, l'extrême droite évolue. Il faut en avoir conscience et il faut que nous tous, on se mobilise contre l'extrême droite. C'est clair. Mais en même temps, la loi de restauration de la nature allait mourir parce que les écolos finalement sont mis dans un coin. Eh bien non, on a encore une majorité pour faire avancer le pacte vert. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à mobiliser nous, c'est clair, mais aussi les forces démocratiques, de les avoir avec nous dans les débats écologie, dans les débats jeunes pendant la campagne, d'insister sur l'importance pour que le côté éco des écosocialistes ressorte un peu plus et d'aller chercher une partie des libéraux. Georges-Louis Boucher, je pense que c'est foutu. Lui, c'est juste la technologie va nous sauver, mais il a un discours dangereux face aux jeunes. Et ça, j'attire aussi votre attention là-dessus parce que beaucoup d'entre vous seront en débat écologie pendant la campagne et il a un discours technosolutionniste hyper dangereux. La technologie va nous sauver. Lui aussi, il tenait le discours de « il faut continuer l'agriculture intensive et lutter contre le dérèglement climatique ». Mais c'est antinomique. L'un ne va pas avec l'autre. Et donc, oui, à la technologie, il faut continuer à développer la technologie. Mais si la technologie était la solution, on ne parlerait pas de dérèglement climatique. On ne parlerait pas d'émissions de CO2.
Comme si on avait tout le temps du monde.
Exactement. Et donc, c'est là qu'il faut absolument que nous, on soit aussi présents sur ce terrain-là, en disant « oui, les technologies, il faut continuer à investir dedans ». Tout ce qui est capture carbone, etc., c'est un mix de solutions qui doit trouver le jour. Mais aujourd'hui, la technologie n'est pas au point. Donc il faut réduire notre consommation, il faut protéger, restaurer la nature, il faut prendre des mesures écologiques d'urgence, aussi pour la dimension sociale. Parce que l'alimentation, si elle devient une bataille, l'accès à l'eau potable, si ça devient une bataille, l'accès à des logements isolés, à l'énergie... Si tout ça devient conflictuel, source de conflits sociaux, c'est pas les moins nantis, les plus pauvres et les jeunes qui vont en tirer bénéfice, loin de là. Donc,
l'inverse,
le défi est aussi social. Voilà.
Le strict inverse. Mais du coup, merci beaucoup pour cette réponse, hyper complète. Mais on voit du coup que le pacte vert, la loi de restauration de la nature, ça a été quand même des choses qui t'ont marqué. Enfin, on sent dans ton discours que ton discours passionné. Je voulais savoir si t'avais, pour la prochaine mandature, quels étaient les projets, toi, ou en tout cas les gros dossiers sur lesquels tu vas mettre la priorité, sur lesquels tu vas mettre toute ton énergie ou une grande majorité de ton énergie, et pourquoi, si tu peux nous.
Merci. Un truc sur les lobbies, parce que j'ai peu parlé des lobbies, mais ils sont bien présents, ils sont là, et il faut faire avec. On essaye de réguler aussi les lobbies et d'avoir un registre de transparence pour s'assurer que toutes les rencontres soient bien renseignées. Ça, c'est le cas désormais suite au Qatargate. On n'en a pas parlé du Qatargate.
Non, on n'en a pas parlé, mais les Verts ont une position quand même assez.
Oui, la nôtre, elle est très claire, c'est full transparence, mais les autres n'en veulent pas. Donc là aussi, les conséquences positives du Qatargate se comptent sur le bout des doigts parce que les mesures vraiment fortes en matière de transparence et autres. enfin, c'est mitigé, mais c'est à nouveau les mêmes qui n'en veulent pas, quoi. Enfin, c'est toujours les mêmes. Donc, il faut voter par là. Ça, c'est un signal très clair. Et il y a un tour intéressant, mais je me demande si Écologie n'a pas déjà proposé ça, le lobby tour à Bruxelles. Il y a une ONG, une asso qui organise des lobby tours des institutions européennes et ce qui l'entoure. Et on voit très concrètement, physiquement, géographiquement, où sont les gros lobbies industriels, énergétiques, etc. à côté des institutions européennes. Ils ont, enfin, voilà, ils sont là. Et donc, oui, ils utilisent ce réseau, ils organisent des events, bling bling, VIP, à l'égard de gens qui aiment ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas mon truc, mais voilà, il y en a qui aiment bien ce genre de moment et où ils acceptent finalement l'influence. Voilà. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que je veux tout faire, que toutes les batailles méritent d'être menées, qu'il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Donc à la fois, je suis aujourd'hui dans la perspective de poursuivre les engagements que je porte depuis 5 ans, et c'est ce qui me donne envie de me représenter aussi finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé au niveau du Parlement et qui doivent maintenant être débloquées au Conseil. Hein. Je parlais de la directive sur le devoir de vigilance au Parlement européen, le règlement sur l'exclusion du travail forcé. On a aussi obtenu une réforme des chapitres de développement durable des traités commerciaux. Alors une des batailles tant du secteur associatif que politique écolo, depuis des années, c'est de faire en sorte que les normes sociales et environnementales deviennent contraignantes dans nos accords commerciaux. Et on l'a obtenu. Donc c'est une revendication et une bataille historique qu'on a obtenue sous ce mandat. C'est ce qui explique aussi qu'on soutient parfois des traités de libre-échange, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Vous avez sans doute entendu parler du traité avec la Nouvelle-Zélande. On a décidé de le soutenir parce que tout ce qu'on a toujours exigé est dedans. En termes de normes, de garanties, de balises. Et il y a un engagement réciproque entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande de travailler à la réduction des pesticides et d'avancer vers ces fameuses clauses miroirs. Donc la Nouvelle-Zélande n'utilise plus tout ce qui est pesticides interdits en Europe. Plus. Pas juste pour l'exportation vers l'Europe. Plus. Or, aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande continue à utiliser ce type de produits chimiques et de pesticides. Sans accord, il n'y aurait pas cette discussion qui s'enclencherait avec la Nouvelle-Zélande. Il n'en demeure pas moins que le libre-échange n'est pas notre modèle. Mais on n'a pas le rapport de force pour changer le modèle. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, écologistes, à l'intérieur du Parlement? C'est de faire en sorte d'améliorer l'existant. Parce que le PPE, le groupe de l'UDGEN, est celui qui veut le moins entendre parler de ce type de normes. Ils ont refusé, et les autres, jusqu'aux socialistes, ont suivi, d'inclure une clause de droit humain. Donc ça, c'est mon prochain cheval de bataille. On a des normes sociales et environnementales contraignantes pour tous les nouveaux traités, ce qui signifie que le Mercosur et tous les autres, c'est non, parce qu'il n'y a pas ce côté contraignant avec des sanctions. Mais on n'a toujours pas de clause de droit humain. Donc que se passe-t-il si, dans le cadre de nos relations commerciales, des entreprises finalement contribuent à la violation des droits humains qui sont en cours au sein d'un pays? Moi, je pense à un dossier que j'ai porté pendant les 5 ans ici, le Vietnam. Le Vietnam est un régime communiste autoritaire qui viole les droits des citoyens. Il n'y a pas d'opposition politique, ils sont en tôle, ils sont accusés de fraude fiscale ou de viol, les opposants politiques. Les activistes climatiques sont aussi en prison pour des raisons fallacieuses, mais tout simplement parce qu'ils osent contester la politique du gouvernement. On a un accord d'investissement avec ce pays. Nos entreprises belges, wallonnes, bruxelloises vont investir au Vietnam et donc contribuent quelque part à la violation des droits syndicaux dans les entreprises dans lesquelles on investit. Et ça, pour moi, c'est non, quoi. Ça devrait être non, ça devrait être sanctionné, ça devrait être un no pasaran. Aujourd'hui, c'est le cas. Et donc voilà, prochain cheval de bataille, faire en sorte qu'en plus des normes sociales et environnementales, il y ait aussi une clause de droit humain. Qui interdit au pays de régresser en matière de respect des droits humains. On voit en Argentine, depuis l'arrivée de Milei, il coupe les droits syndicaux, les droits de revendiquer. Et mon objectif, c'est justement, de l'intérieur, de faire en sorte que nos traités commerciaux deviennent de plus en plus alignés sur les normes du commerce équitable. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est faisable, mais il faut continuer à bosser. Et c'est pas juste en disant « je vote contre tout comme maintenant l'UDGEN », alors que son groupe, à nouveau, est celui qui pousse le plus au libre-échange, à conclure des accords avec le reste du monde. Enfin, ça en vomir, hein, tellement ils sont super actifs pour qu'on on signe et qu'on signe aussi le Mercosur. Les socialistes européens sont pour le Mercosur. Alors que c'est contraire à tout ce qu'on défend depuis 5 ans, avec eux aussi d'ailleurs, de normes sociales et environnementales contraignantes. Et puis dans mon autre commission justice, ben là aussi il y a des, malheureusement des reculs. Et c'est vrai que si l'extrême droite augmente, ça va être encore plus un défi de faire en sorte de continuer à faire progresser les droits en Europe, les droits des minorités, les droits des personnes racisées, les droits LGBT,
les personnes déplacées aussi avec
les droits des migrants, le pacte migratoire qui a été adopté ici, scelle en fait l'Europe forteresse, scelle le statu quo et le légalise. Et donc il va falloir qu'on trouve des voies de mobilisation aussi sur le plan parlementaire pour faire en sorte qu'on remette de la solidarité, de l'humain, des droits et le respect du droit international en selle. Et donc ça, ce sont tous des défis. La dernière chose, et je les laisserai à Olivier de Schutter s'il est élu, et c'est notre but hein, d'avoir 2 sièges au Parlement européen. Je pense, on n'en a pas encore discuté formellement parce qu'on a le temps de venir voir les choses, mais que lui, il sera plutôt actif sur le volet agricole, ça ferait sens avec son expérience. Et là, on a la réforme de la PAC. Et ça, c'est le gros enjeu. Et on doit absolument profiter de la crise agricole qui remet fondamentalement en cause le système agricole tel qu'il existe et tel qu'il existe au niveau européen pour redéfinir et pour obtenir cette réforme fondamentale de la PAC et en ayant une dimension alimentaire. Parce qu'on parle de l'agriculture, mais on ne parle pas du modèle alimentaire qu'on veut pour l'Europe. La fameuse stratégie de la ferme à la fourchette, c'est repartir de ça, essayer de retrouver un minimum dénominateur commun pour réformer la politique alimentaire et agricole. Et donc, voilà, je suppose que si Olivier rejoint le Parlement européen, ce sera un de ses chevaux de bataille. Et puis poursuivre, évidemment, les politiques climatiques, parce qu'on est loin du compte, on est loin d'avoir adopté toutes les législations nécessaires, et il faut qu'on continue à batailler pour que tous les secteurs se mettent... de partir du terrain et de toutes les initiatives en transition qui existent, parce que l'espoir, il est là. Hein. Enfin, il faut regarder tout ce qui se fait et ce qui se fait bien, et faire en sorte que ça devienne le modèle dominant soutenu par les politiques publiques. Donc ça, c'est l'objectif qu'on va continuer à pousser vers un pacte vert et social européen, et on continue la bataille.
Super. Bah, en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup d'entre nous qui seront derrière toi et derrière Olivier de Schutter, et derrière Léa Charlet pour mener cette campagne à vos côtés, et puis même après, hein, essayer de faire pression sur les législations. Pour la dernière question, je veux juste poser une petite question d'ouverture. Puis c'était aussi un peu, surtout pour nous, parce que je pense qu'il y a pas mal d'activistes ou de sympathisants à la cause dans cette salle. Je pense que c'est ça qui vous a donné peut-être envie de venir. C'était de savoir qu'est-ce qui te pousse en fait à militer tous les jours. Quelles sont les petites choses du quotidien qui te donnent toujours envie de militer, et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller te présenter à ces élections européennes et puis nous représenter quoi.
Merci. Mais ce qui m'a poussée, c'est que je suis souvent très critique, très contestatrice, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit bon, je vais arrêter de critiquer, je vais y aller quoi. Je vais arrêter de revendiquer, je vais essayer de le faire. Je vais arrêter de dire les femmes doivent, et je vais le faire. Les femmes doivent être tête de liste, les femmes doivent. Enfin, on a des injonctions comme ça, mais je suis fondamentalement féministe, et à un moment donné, c'est aussi montrer l'exemple, c'est de se dire on y va, on rentre dans la bataille, on mène la bataille. Et je suis convaincue qu'une Europe plus féministe, on a besoin des hommes dans cette bataille-là aussi, mais des relations internationales féministes, une approche des conflits qui est féministe serait aussi beaucoup plus tournée vers la recherche de solutions pacifiques. On le voit dans les règlements de conflits sur le terrain, quand on travaille à partir des communautés locales et qu'on implique les femmes, que les résultats sont tout à fait différents et sur le long terme. Là où on met des hommes autour de la table pour régler le problème, eh ben il va être réglé pendant un petit temps et les conflits vont ressurgir. Et c'est ce qui se passe aussi dans le cadre du Rwanda aujourd'hui et du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Enfin donc on voit que quand on part des communautés locales, des femmes qui du coup ont aussi l'inclusion de des filles liées aux enfants dans ces conflits. Bref, la résolution est tout autre. Et donc, je suis fondamentalement convaincue qu'une Europe paritaire, à tout le moins, avec plus de jeunes aussi, parce que ça, c'est le constat, c'est que le renouvellement des assemblées est essentiel. Quand on rencontre des vieux cons qui sont là depuis 20 ans, qui n'ont pas envie en fait d'être bousculés dans leurs habitudes et qui ont leurs habitudes de négociation. Et il y en a qui me l'ont dit, hein, qui m'ont dit oui, mais Saskia, t'imagines pas comme tu viens nous bousculer. Ben, il manquerait plus que ça.
Enfin, la politique.
On va pas rentrer dans le cadre dès qu'on y arrive. Et donc, voilà, de bousculer ce vieux monde, d'oser prendre notre place, de revendiquer, d'oser prendre notre place, pas en tant que femme uniquement et que jeune, mais aussi en tant qu'écologiste, parce que l'écologie continue à être considérée comme un plus, enfin voilà, quelque chose de subsidiaire, mais non, en fait, l'écologie, c'est le fondement, ça doit devenir le fondement des politiques, la base. Alors, il faut mainstreamer l'écologie dans l'ensemble des politiques, et donc être fière du combat qu'on mène, parce que c'est le combat de l'avenir, c'est le combat pour les générations futures. Et donc c'est ce qu'on doit arriver à faire et arrêter de se mettre dans la case de l'écologie punitive, de l'écologie taxatrice. Ça, je pense que c'est aussi des stéréotypes dans lesquels les autres arrivent très bien à nous garder. Et on doit montrer que en fait l'écologie c'est positif, que l'écologie c'est plus de bien-être, que l'écologie c'est la démocratie, que l'écologie c'est l'inclusivité. Et c'est une société tout simplement plus apaisée où on vit bien ensemble et en communauté. Et c'est ça mon driver, c'est de regarder tout ce qui se passe, toutes les actions en transition, tous les jeunes qui sont mobilisés. Vous en dites souvent, enfin, j'entends aussi dire les jeunes ne s'intéressent pas, mais quand j'étais jeune, on me disait déjà ça, les jeunes, vous vous intéressez à rien. Enfin, donc c'est juste dingue, mais ça traverse les générations aussi. Et c'est d'être la voix politique de toutes ces initiatives, de tout ce qui bouge, de tout ce qui fait démocratie et société. Et oui, ça c'est mon driver, et quand je ne l'aurai plus, je pense qu'il faudra que je passe à autre chose, et ça arrivera sans doute. Et c'est sain aussi qu'on ait cette limite dans le temps des mandats chez nous. Je pense que c'est extrêmement sain pour la démocratie de l'avoir, parce que le constat, c'est que ceux qui sont là depuis plus de 3 mandats, il est temps qu'ils arrêtent et qu'ils passent à autre chose, et qu'ils retournent, je dirais, à la vraie vie, enfin, qu'ils voient autre chose aussi que la politique. Et donc, on a, je pense, raison sur le plan de la gouvernance de continuer dans cette direction-là, même si du coup il y a moins ce côté populaire, des figures populaires dans nos rangs, hein, qui sont pas là implantées dans le décor à la Di Rupo et autres depuis tellement longtemps. Mais bref, je crois que pour la démocratie c'est nécessaire.
Donc merci beaucoup Saskia pour ta participation
merci et puis vous, merci à vous
aussi de nous avoir écoutés.